France Culture.
Et le journal vous est présenté par Véronique Rebérode. Bonsoir Véronique.
Bonsoir Mathéo, bonsoir à tous. Le « Ce qu'il vous en coûtera » de François Bayrou ne fait pas que des heureux, c'est le moins qu'on lui puisse dire. Au lendemain de la présentation par le Premier ministre du budget 2026, régime sec pour les ministères, Marie Viennot nous en donnera le détail, disette aussi pour les fonctionnaires. Avec quelles conséquences pour les services publics, analyse dans ce journal de Wafia Kenich. À l'étranger, en Syrie, la capitale Damas a été le théâtre de frappes aériennes massives menées par Israël. Israël qui soutient les Druzes attaqués dans le sud du pays. Comment analyser ces frappes israéliennes? Nous appellerons notre correspondant à Jérusalem, Thibault Lefèvre. Donald Trump cède à la pression de son propre camp. Le président américain accepte la publication de nouveaux éléments dans l'affaire Jeffrey Epstein, ce financier inculpé de trafic sexuel et décédé en prison. Les deux hommes se fréquentaient à une certaine époque. Il veut encore croire à un compromis d'ici l'automne. Pourtant, au lendemain de sa présentation du budget 2026, François Bayrou accumule les réactions indignées à ces mesures choc pour réaliser plus de 43 milliards d'euros d'économies l'an prochain. Suppression de 2 jours fériés, gel des prestations sociales et des retraites, négociations sur l'assurance chômage, etc. Tout le monde doit faire des efforts, a dit le Premier ministre. Ces ministres aussi sont au régime sec, pas tous. Mais cet après-midi, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, était auditionné par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, auditionné sur un document qui leur a été diffusé hier, le tiré à part. Il détaille, Marie Viennot, la répartition des efforts budgétaires ministère par ministère.
Oui, et en dehors de la charge de la dette et de la défense, on a eu la confirmation aujourd'hui que les budgets de l'intérieur et de la justice seraient augmentés au-delà du niveau de l'inflation. Alors pour compenser, des ministères vont donc voir leur budget diminuer en valeur. Et quand on compare à ce qu'ils auraient dû recevoir si leur budget avait suivi autant que l'inflation avait suivi l'inflation, les niveaux de baisse sont impressionnants. En 1, le ministère de la fonction publique, moins 30%. En 2, les Jeux Olympiques paraissent bien loin, sport, jeunesse et vie associative, moins 18%. Et en 3, alors que c'est la mission qui avait le plus contribué à l'effort d'économie l'an dernier, l'aide publique au développement, dont le budget va chuter de 18% par rapport à ce qu'il aurait dû être à politique constante. Suivent, entre 9 et 4% de baisse, le ministère de l'économie, la mission solidarité, insertion et égalité des chances, le ministère de la culture, moins 6%. Le ministère du Travail, moins 5,5%. C'est la même baisse pour l'agriculture. La cohésion des territoires, dont le logement, 5,1%. Et enfin, les Outre-mer, moins 4%. Alors que le Parlement vient tout juste d'adopter une loi pour refonder Mayotte. Loi qui prévoit 4 milliards d'investissements en plus sur 6 ans. Alors, dernière précision du jour, qui a été confirmée par Amélie de Montchalin. La contribution de la France à l'Union européenne serait réduite d'1,5 milliard d'euros par rapport à ce qui était prévu. C'est une demande récurrente du Rassemblement national, jugée impossible par divers experts car cela mettrait la France en infraction avec ses engagements. Et c'est également très étonnant de la part d'un gouvernement qui se veut pro-européen et qui a tout intérêt à s'attirer la clémence de ses partenaires tant il outrepasse, et c'est bien le sujet, les niveaux de déficit et de dette prévus dans les traités.
Merci Marie Viennot. C'était aussi l'un des éléments marquants du discours de François Bayrou hier, la règle désormais applicable à tous les services publics, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3. Ce n'est pas la première fois que ce type de mesure est prise par un gouvernement. L'une des suppressions les plus massives d'agents publics a eu lieu en 2008, la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques, voulue par le président Nicolas Sarkozy, avait à l'époque laissé des traces, Wafia Kenich.
93 000 postes équivalents temps plein supprimés. À l'époque, l'annonce du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 fait grand bruit. Dans un premier temps, ces mesures produisent des économies à court terme et dégradent assez rapidement les conditions de travail des agents restés en poste. Mais avec le temps, les conséquences vont bien au-delà. Émilien Ruiz, professeur d'histoire à Sciences Po Paris.
France Stratégie avait publié un rapport sur la crise d'attractivité inédite que connaissait la fonction publique ces dernières années. Et on voit bien que donc, si l'un des soucis des administrations, c'est d'avoir du mal à recruter, si on leur annonce en plus des réductions d'effectifs, on a du mal à imaginer que la situation s'améliore dans la fonction publique.
Crise de recrutement, désorganisation des services, autant de perturbations qui finissent par se ressentir pour les usagers des services publics, comme par exemple dans les caisses d'allocations familiales, explique Cara Deville, chercheuse en sociologie à l'INRAE.
Il y a eu des non-remplacements d'agents au sein des CAF et ça produit des effets en cascade. Alors déjà sur les capacités de traiter les dossiers dans les temps, sur le temps à consacrer à chaque dossier et sur l'équilibre entre l'accueil du public et le traitement des dossiers. Donc c'est un ensemble de réformes qui recentre le travail des agents sur leur part considérée comme directement productive au détriment de l'accès aux droits des personnes, notamment des plus fragiles.
Enfin, explique la sociologue, les suppressions de postes de fonctionnaires aboutissent à la fermeture de services publics, notamment dans des zones rurales déjà enclavées et où la population vieillissante en a pourtant particulièrement besoin.
C'est la deuxième fois cette année qu'il voit son taux baisser. Le ministère de l'économie confirme que le taux de rémunération du livret A passera à 1,7% au 1er août contre 2,4% aujourd'hui. Un taux qui restera nettement plus élevé que l'inflation positive. Bercy. La disparition de Loïc Le Floch-Prigent à 81 ans. Il avait été à la tête des plus grandes entreprises françaises dans les années 80-90, comme Elf Aquitaine, Rhône-Poulenc, GDF ou encore la SNCF. Il avait également passé 2 années en détention pour des malversations financières. C'est la juge Eva Joly qui avait mis au jour un réseau de trafic d'influence, de corruption et de détournement de fonds impliquant notamment Loïc Le Floch-Prigent, mais aussi des anciens ministres comme Roland Dumas et Charles Pasqua. La France, patrie des Lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, la France ce jour-là accomplissait l'irréparable. Par ces mots, il y a 30 ans exactement, Jacques Chirac reconnaissait la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs lors de la rafle du Vel'd'Hiv le 16 juillet 1942. Mais il faudra attendre les années 80 pour que la rafle du Vel'd'Hiv devienne le symbole de la déportation et 1995 pour un tournant politique. En 1995, Serge Klarsfeld, chasseur de nazis, avait relu ce discours de Jacques Chirac, resté un tournant donc dans l'histoire. Il est l'homme qui avait murmuré à l'oreille de Jacques Chirac sur la reconnaissance et la responsabilité de la France. L'historien Sébastien Ledoux revient sur la triple casquette de Serge Klarsfeld, à la fois activiste, avocat, historien et son rôle auprès de Jacques Chirac.
Il est à la fois sur le plan judiciaire, et donc il commence dès 78-79 à déposer plainte pour crimes contre l'humanité. Il y a une tribune très importante qui publie en avril 82, où effectivement il est question de poursuivre les criminels, dont les criminels français. Et deuxième aspect, il ne faut pas l'oublier, de faire prendre conscience à la société française, à l'opinion publique et au pouvoir politique, aux acteurs politiques français, de cette complicité de Vichy dans la persécution antisémite. Et troisième casquette qu'il a, c'est un chercheur aussi. Donc il est dans les archives et il publie en 83 et 85 deux tomes énormes, Vichy, Auschwitz. Or, pour revenir à Jacques Chirac, il connaît Serge Klarsfeld, il se voit, et dans le discours de 1986 que Jacques Chirac prononce à la cérémonie du Vel'd'Hiv, il reprend la conclusion du livre de Vichy-Auschwitz, donc c'est vraiment une source très importante pour lui, à la fois en termes de sensibilité, mais en termes de faits, hein, de connaissances factuelles, historiques, pour mettre en avant la responsabilité de Vichy dans cette race.
L'historien Sébastien Ledoux répondait à Chloé Leprince. Une marche pour alerter l'opinion publique et dénoncer une situation insupportable. La famille et les amis de Christophe Glaise, journaliste sportif, spécialiste de football, ont organisé une marche de soutien à Avignon. Christophe Glaise était arrivé l'an dernier en Algérie pour réaliser une série de reportages sur le foot algérien et sur le club de la jeunesse sportive de Kabylie, basé à Tizi Ouzou. Il vient d'être condamné par la justice algérienne à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme au terme d'un contrôle judiciaire de plus d'1 an. Damas, cible de frappes massives, dont certaines à proximité du palais présidentiel. L'armée israélienne a mené aujourd'hui une série de frappes aériennes dans le centre de la capitale syrienne, dans le but d'affaiblir les forces gouvernementales syriennes qui volent au secours des Druzes soutenus par Israël dans le sud du pays. Des affrontements impliquant des groupes armés locaux et les forces gouvernementales ont fait près de 300 morts à Souéda, dans le sud de la Syrie, qui n'est qu'à 100 de kilomètres de Damas. Thibault Lefebvre, bonsoir.
Bonsoir.
Comment Thibault analyser ces frappes? Quelle est la stratégie israélienne en Syrie?
Eh bien, à court terme, cette stratégie est relativement simple à comprendre. Il s'agit de frapper fort le pouvoir syrien, considéré comme responsable des violences, jusqu'à ce qu'il retire ses troupes. Exemple, cet après-midi, avec les bombardements que vous entendez, bombardements filmés en direct sur le ministère de la Défense à Damas et sur une autre cible à proximité du palais présidentiel. Sans doute un avertissement des Israéliens qui rappellent une nouvelle fois à Ahmad al-Sharra qu'ils peuvent frapper où ils veulent et quand ils veulent, avec deux objectifs. D'abord, contenir les menaces à l'extérieur d'une très vaste zone démilitarisée au sud de la Syrie, à la frontière avec le Golan annexé par Israël depuis plus de 40 ans. Les troupes de l'État hébreu occupent depuis 7 mois l'autre partie du plateau, la partie orientale, et le mont Hermon, des zones pourtant sous souveraineté syrienne. Et depuis hier, des troupes israéliennes sont arrivées en renfort de Gaza. Et puis l'autre objectif, l'objectif affiché, disons, c'est la protection de la minorité druze syrienne, pourtant très divisée sur l'intervention israélienne.
Mais Thibault, en intervenant en Syrie, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, fait aussi de la politique intérieure.
Oui, l'autre enjeu est intérieur, vous l'avez dit, ce sont les druzes d'Israël. Beaucoup d'entre eux sont bien intégrés, ils combattent par exemple dans l'armée, et le premier ministre doit leur donner régulièrement des gages en se présentant comme le défenseur de toute la communauté et même au-delà des frontières.
Vous les druzes d'Israël, l'armée intervient en Syrie. Nous agissons pour sauver vos frères druzes et éliminer les gangs du régime. J'ai une demande à vous faire. Ne traversez pas la frontière, vous risquez votre vie et laissez l'armée israélienne faire son travail.
Parce qu'hier soir et encore tout à l'heure, des druzes israéliens ont traversé la frontière pour aller défendre leurs cousins syriens. L'armée de l'État hébreu a été un moment débordée avant de reprendre le contrôle.
Thibault Lefèvre, merci. En direct de Jérusalem, les autorités syriennes annoncent ce soir un nouveau cessez-le-feu à Soueda. Le premier cessez-le-feu n'avait pas été suivi. C'est une proposition. Pour l'instant, l'Union européenne propose un budget en nette hausse pour la période 2028-2034, 2000 milliards d'euros sur 7 ans à répartir entre agriculture, défense, etc. Le précédent budget de 2021 à 2027 représentait 1200 milliards d'euros, mais avait été complété par un plan de relance de 800 milliards pendant la crise Covid. À Bruxelles, la correspondance de Fabien Cazot.
Sur l'enveloppe globale annoncée aujourd'hui de 2000 milliards d'euros, la moitié sera consacrée à ce que la Commission appelle des plans de partenariat nationaux et régionaux. 1000 milliards attribués aux États membres pour financer non seulement l'agriculture, mais aussi les aides au développement régional ou encore les dépenses de sécurité. C'était une crainte des agriculteurs, voir leur budget propre atterrir dans un budget plus large qui ne leur sera plus spécifiquement consacré, même si la Commission insiste sur le fait que 300 milliards d'euros y seront sanctuarisés pour soutenir leurs revenus. C'est 30 milliards de plus que dans l'actuel budget pluriannuel qui court jusqu'en 2027. Le second pilier, c'est la compétitivité et la défense. 580 milliards planifiés sur 7 ans pour la décarbonation de l'économie européenne, sa digitalisation. 175 milliards seront fléchés sur la recherche et l'innovation pour tenter de combler le décrochage avec les États-Unis. Enfin, dernier grand poste budgétaire, l'action extérieur de l'Union européenne ailleurs dans le monde, un programme qui sera doté de quelque 215 milliards d'euros.
Éteindre la polémique à tout prix et lever aussi les soupçons jusque dans son propre camp, alors qu'une partie de l'opinion américaine pense que les autorités dissimulent des éléments sur l'affaire Epstein pour protéger une élite riche et puissante qui aurait eu un lien avec le financier Jeffrey Epstein, inculpé de trafic sexuel. Donald Trump, qui appartient justement à cette élite, tente de déminer l'affaire. Le président Trump, qui a autrefois côtoyé Jeffrey Epstein, décédé en prison, accepte la publication de nouveaux éléments sur cette affaire. Plus de transparence pour calmer les esprits, aussi dans le camp républicain. À Washington, la correspondance d'Ajera Mohamed.
Pour beaucoup de militants trumpistes, c'est une trahison. Sur les réseaux sociaux, certains se filment même en train de brûler leur casquette rouge « Make America Great Again », alors que d'autres rediffusent des interviews de Donald Trump pendant sa campagne présidentielle. Vous, président, est-ce que vous allez déclassifier le dossier Epstein ? Mais d'après le FBI et le département de la justice, l'homme d'affaires s'est bien suicidé et il n'avait aucune liste de personnalités à faire chanter, ce sont les conclusions de leur enquête. qui ne seront pas publiées, ce qui alimente encore plus les théories du complot, mais aussi la gêne chez certains élus républicains, comme ici le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson.
Je suis pour la transparence. C'est un sujet délicat, mais on devrait tout dévoiler, laisser les gens décider. Ronald Reagan disait, on doit faire confiance au peuple américain. Je suis d'accord, le président Trump aussi, et je lui fais confiance.
Finalement, hier, le président américain a tenté d'éteindre la polémique.
Je ne comprends pas pourquoi le dossier Epstein intéresse les gens. C'est assez inintéressant et il est mort depuis des années. Mais s'il y a des éléments crédibles, je propose qu'on les dévoile.
Mais sa ministre de la Justice, Pam Bondi, a rejeté encore une fois hier l'hypothèse d'une publication d'un rapport. Pour elle, le sujet est clos, mais peut-être pas pour les électeurs de Donald Trump.
Un mot de la couleur du ciel pour demain, jeudi 17 juillet. Plutôt gris sur le nord du pays, ensoleillé dans le sud. Les températures maximales atteindront de 22 à 24 degrés en bord de Manche, 26 à 36 degrés dans le centre et puis jusqu'à 39 degrés près de la Méditerranée. C'est la fin de cette édition. Elle a été préparée avec Annie Brault à la technique, Élise Leu.